merci à tous. Donc, vous l'avez potentiellement vu dans l'agenda. Le but aujourd'hui, c'est que ça ne va pas être une présentation technique, technocentrique, parce que j'ai horreur de ça, mais plutôt une présentation de blockchain, déjà repositionner blockchain en tant que socle de confiance, donc en tant que notaire digital, en quelque sorte. Et puis, tout de suite, parler de l'approche d'un projet blockchain réussi. Dans le prisme d'IBM et de son histoire sur la blockchain, et puis détailler un certain nombre de cas d'usage concrets dans différentes industries qui matérialisent justement comment un projet réussi arrive à être at scale, comme on dit. Alors, commençons. C'est normal que ce soit un écran noir parce que c'est un peu le monde d'aujourd'hui, tel qu'on le voit. Et c'est comme ça, on voit tout en noir, sauf que. Nous, chez IBM, on perçoit et on a une conviction, c'est que la technologie peut aider justement à sortir un peu de ce tunnel dans lequel on parle beaucoup de choses négatives. Donc, c'est vraiment notre credo. Donc, c'est de pouvoir justement utiliser la technologie dans ce sens. Comment fonctionne un projet blockchain? C'est un sport d'équipe. Blockchain égale sport d'équipe et sport d'équipe, ce n'est pas forcément. Qu'avec des gens qui sont complémentaires, mais qui peuvent être aussi concurrents. Et le but, c'est d'avoir une sorte d'objectif commun ou d'ennemi commun. Et donc, une fois qu'il y a ça, on oublie un peu les frictions qu'on pourrait avoir au day-to-day pour pouvoir arriver à cet ennemi, à vaincre cet ennemi commun. Ça peut être le gaspillage, ça peut être la lutte contre le travail d'enfants, etc. Ou un but commun, ça peut être une traçabilité ultime, une réduction d'une empreinte carbone, etc. Et donc ça, c'est vraiment cette dimension qu'il faut garder en tête, que c'est un sport d'équipe dans lequel c'est de la compétition, parce que lorsqu'on parle de blockchain, on va adresser la chaîne de valeur d'une entreprise et d'un écosystème ou d'une filière en général. Et ça, c'est quelque chose qu'on a géré depuis très longtemps, parce que c'est quelque chose qu'on a initié. On peut voir à droite les alliances qui sont des fois de l'extérieur perçues comme c'est des concurrents, mais non, c'est des alliances assez systématiques, que ce soit avec des grands noms de l'industrie ou des associations pour réaliser les choses à gauche, qui vont pour la moitié c'est basé sur de la blockchain, pour d'autres c'est en utilisant de l'IA, etc. Et donc je vais commencer à expliquer un certain nombre de projets et de use cases qui ont été faits. Donc, Tradelearn, c'est de la blockchain. Foodtrust, c'est de la blockchain. Endel, sur de l'énergie, c'est de la blockchain. RSBN, c'est de la blockchain, etc. D'accord? Donc ça, c'est vraiment pour positionner un peu pourquoi IBM. Et pour donner un peu plus de détails, on a fait plus de 600 projets blockchain depuis que la blockchain a existé. On parle de blockchain privé de manière générale, blockchain d'entreprise, même si on a pas mal de gens qui travaillent sur les NFT, sur les méta, etc. Et puis tout là. Mais bon, je considère que c'est pas le sujet, c'est vraiment un focus blockchain d'entreprise, application pour les entreprises et dans des secteurs d'activité et des fonctions qui, au final, on le voit. Ça peut concerner la supply chain, ça peut concerner la partie finance, l'identité, la distribution d'énergie, le pass vaccinal, entre guillemets, parce qu'on a fait celui de Copenhague et celui de New York, etc. Sur de la blockchain. Mais voilà, ça peut concerner vraiment tous les sujets. Maintenant, on n'oublie pas qu'il faut chercher quelle est la finalité. Et on le voit, c'est marqué en petit, sur 600 projets ont été initiés un peu partout dans une logique de consortium ou dans une logique d'une entreprise qui veut faire des choses autour de son écosystème. Mais il y a 30 réseaux qui sont at scale aujourd'hui, c'est-à-dire des réseaux opérationnels en prod, dans lesquels potentiellement il y a des spin-offs qui ont été faits, des consortiums qui ont créé une joint venture et qui sont devenus des entreprises autonomes et qui au final déroule toute seule, lève de l'argent et puis fonctionne en tant qu'entreprise, mais que ça avait commencé comme une sorte de projet, d'écosystème, etc. D'accord? Donc, donnerai un certain nombre d'exemples, mais TradeLens, si je donne rapidement TradeLens, aujourd'hui, c'est pratiquement 80% du trafic maritime de conteneurs dans le monde passe sur TradeLens. Donc, toute la liasse douanière, etc., bah, ça a commencé avec Maersk. Et puis, tous les concurrents commençaient à regarder de loin. Oui, mais je vais faire pareil. Moi aussi, ils ont essayé, sauf que ce n'était pas industriel. Et au final, tout le monde atterrit sur la plateforme de Maersk et tout le monde devient partenaire de la plateforme TradeLens, notamment les Hapag-Lloyd, les CMA, etc. Mais c'est pour vous montrer cette logique de lorsque je raisonne avec tout le monde est mon ennemi, ben je ne fais plus rien. Mais lorsque je vous dis j'ai une ouverture et donc je travaille en écosystème, du coup, il y a une économie d'échelle qui se fait et puis une valeur qui est partagée. Donc, c'est vraiment cette notion de partage de la valeur tout le long de l'écosystème. Donc, blockchain, rappelant ce que c'est et ce que ce n'est pas, c'est une sorte de registre distribué qui va permettre à l'ensemble de participants d'enregistrer des transactions, des informations, des empreintes de documents. Alors, ça ne va pas être là pour stocker les documents en eux-mêmes, mais des empreintes de ces documents et de manière immuable. Vous avez déjà potentiellement eu déjà des infos, mais c'est important de pouvoir positionner ça. Donc, je le considère, moi, comme un notaire digital. Quand on va enregistrer une transaction chez un notaire, voilà, c'est un peu dans cette même logique. D'accord? Et d'ailleurs, les greffiers de Paris ont sorti une blockchain avec nous dans laquelle ils enregistrent l'acte d'enregistrement d'une œuvre que vous pouvez payer 300 euros avec un notaire en papier, bah vous ne le payez que 50 euros, mais il est sur la blockchain et il est valable 5 ans, etc. Donc, même eux, ils se sont passés dans cette logique de pouvoir utiliser la blockchain comme un use case. Et donc, lorsqu'on parle de blockchain, bah, il y a le hype du moment qui est sur les cryptos, hein, donc le Bitcoin, l'Ethereum, etc. Et puis, il y a la blockchain d'entreprise qui au final se recentre sur quatre grands frameworks hein, dans lesquels va y avoir Hyperledger, donc la fondation Linux, va y avoir Ethereum, va y avoir Corda, voilà. Donc, mais ça reste concentré. Donc nous, on est vraiment sur cette logique de blockchain privée, permissionnée, et c'est un peu notre focus. Pourquoi ? Parce que c'est un peu comme une sorte de club privé dans lequel les acteurs sont connus. Pas n'importe qui vient, donc il y a une éligibilité et qui fait que la confiance, déjà, il y a un pas de franchi. Donc ça, c'est important, les régulateurs sont connus, et puis au final, ça réduit cette logique de consensus qui revient assez souvent sur la blockchain, le proof of work, le proof of stake, etc., c'est gourmand en énergie, etc. Bah, tout ça, ce n'est plus valable dans une blockchain privée, parce que la notion de consensus, elle n'est plus aussi drastique parce qu'il y a déjà un pas en termes d'identification qui est franchi. Après, il y a les points communs qui sont l'immuabilité, la notion de pilotage de la transaction en elle-même de manière distribuée et puis de la traçabilité. Après, il peut y avoir des choses de dire, OK, la blockchain, c'est une base de données, je peux distribuer une base de données et faire la même chose. Donc, il commence à avoir des acteurs qui mettaient des bases de données cryptées dans lesquelles on ne peut pas modifier, donc inaltérables, etc. Et ça reste une base de données. Et ça, si on prend le prisme juste technologique, OK, il y a la base de données centralisée dans laquelle on va dire, je vais faire cet écosystème et je vais demander à tout le monde de partager l'info. Mais ça va être sur une seule base de données, ça veut dire que tout le monde doit faire confiance à un seul acteur. C'est déjà arrivé et que cet acteur parte avec la donnée ou revende de la donnée, etc. Et on le fait tous les jours avec des Facebook, avec ses Twitter. On partage toutes nos infos pour un seul acteur. Il peut y avoir la tentation de dire je distribue les bases de données, je fais cette logique. Mais le problème, c'est que je vais distribuer plusieurs copies, donc j'élargis le problème. Et puis, c'est là où la blockchain intervient. C'est vraiment quelque chose, c'est une sorte de base de données distribuée nativement de manière à ce que cette logique de centralisation du pouvoir, elle n'existe pas. Elle n'est pas comme dans le public où tout le monde a le même poids, mais il y a une sorte de comité directeur, des gens qui sont à l'initiation de tout ça pour pouvoir piloter les nœuds et puis d'avoir ce droit de, un peu comme dans une entreprise, hein, c'est un modèle de gouvernance comme on le voit dans une entreprise. Et ça, c'est important du coup, parce que lorsqu'on va parler d'application dans une entreprise et d'application dans une chaîne de valeur, ben, on va se retrouver avec une chaîne de valeur, ici elle est hyper simplifiée, hein, donc on a le producteur, les différentes étapes jusqu'au restaurant ou au magasin, mais lorsque c'est un logisticien ou celui qui va piloter l'entrepôt, etc., ben, il va travailler pour telle marque, mais pour le concurrent aussi. Et donc, comment faire en sorte que et la marque ou le chargeur lui-même, il va travailler avec plusieurs logisticiens. Donc, demander à tout le monde de mettre tout ça dans le même panier pour pouvoir construire cette traçabilité ou construire cette logique de transparence, ça n'a pas de sens parce que on se retrouve avec des données concurrentes dans un seul endroit et puis on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir. Et donc, c'est ce silotage d'informations qui fait, je dirais, l'essence même d'une supply chain en tant que telle, parce que chacun regarde son bout de la lorgnière, fait que bah, il y a des échanges qui sont point à point. Ça crée un plat de spaghetti. Donc, on va dire qu'il y a déjà des réseaux digitaux comme l'EDI qui sont là pour déjà véhiculer le bon de commande, la facturation, etc., etc. Mais sauf que c'est point à point, donc c'est un plat de spaghetti. Il y a des zones d'ombre parce que le chargeur, le client, il voit des choses, le transporteur au milieu, il ne voit pas. Et donc, tout ça crée des inefficacités. Et c'est là où la blockchain arrive comme une sorte de socle de confiance, c'est de dire, je crée une couche d'abstraction dans laquelle je ne vais pas répliquer la donnée en elle-même, mais je vais positionner une empreinte de la donnée pour dire, attention, il y a telle chose qui vient de se passer, une écriture, un événement, un changement de statut. Et donc, et c'est écrit dans la blockchain parce que le groupe estime que cette information est utile au groupe. Lorsque ce n'est pas utile au groupe, ça n'a pas besoin d'être mis dans une blockchain. Et c'est ça, cette logique. Donc, avant d'arriver à concevoir cette logique de savoir qu'est-ce que je mets dans une blockchain, pourquoi et quand et comment, bah, il faut déjà se poser autour de la table, d'où cette notion de sport d'équipe et de se poser pour identifier bah, pourquoi je veux faire ça, quelle finalité, à qui ça va servir. Qui va mettre la donnée, à quel moment, qui est responsable de la donnée, qui peut la lire, parce que tout le monde ne peut pas la lire. Et donc, c'est là où cette logique de pilotage de ce projet, à chaque fois, je le dis quand j'en parle, c'est un peu comme monter un réseau blockchain, c'est un peu comme monter une startup. Il faut convaincre les différents protagonistes de la valeur que ça va apporter. C'est un peu comme d'aller chercher des investisseurs pour leur dire mettez au pot pour pouvoir... financer. Ben là, on va chercher les protagonistes et on leur dit partagez vos données parce que ça va être utile au groupe et vous aussi, ça va vous être utile parce que vous allez gagner autre chose, de la valeur, de la visibilité, des choses qui vont aider à planifier, etc. etc. Donc ça, c'est important et ça se traduit dans une logique de fluidification de la supply chain, un meilleur pilotage de l'identité, etc. etc. en fonction des différents cas d'usage qui se posent. Pour commencer à parler de cas d'usage, et puis on avait fait une petite vidéo pour vulgariser et puis positionner un peu les cas d'usage classiques hein, d'un point de vue consommateur, parce qu'il parle à nous tous au final. Et puis après, on va passer à la deuxième étape qui est comment on aborde un projet blockchain et quelles sont les étapes clés pour que ça puisse être réussi. Donc, le point, il est... toujours les réseaux blockchain, on les voit de par l'usage. Donc, au final, on raisonne toujours qui va être utilisateur, qui va être consommateur de cette donnée qui va être véhiculée dans une blockchain. À chaque fois, je vulgarise, c'est de la tuyauterie, la blockchain. Techno, c'est de la tuyauterie, mais on ne raisonne pas tuyauterie, on raisonne qu'est-ce que je veux faire. Et après, j'aurai besoin de ces tuyaux-là pour pouvoir faire les choses. Donc là, on a un exemple du saumon qui est élevé à un endroit et puis qui va passer par un certain nombre d'étapes et qui va servir à plusieurs finalités. Donc, ceux qui vont essayer de chercher quelle est l'origine de ce saumon, est-ce qu'il a été nourri aux OGM ou pas et comment je peux savoir qu'il est responsable avec toute la notification un peu des labels qui sont faits. Et puis, une autre personne qui va avoir une autre finalité vis-à-vis de ce saumon ou vis-à-vis de la peau de ce saumon ou de la graisse issue de ce saumon. Donc, Là, c'est un exemple pour juste montrer cette logique de l'information qui peut servir à plusieurs finalités, mais qui ne peut pas l'être avec un projet classique dans lequel je mets un portail, dans lequel tout le monde va venir et puis mettre de l'information et puis encore d'autres personnes vont venir pour pouvoir récupérer l'information. Donc, c'est un moyen, la blockchain, et pour décider que c'est le bon moyen, il faut passer par un certain nombre d'étapes qui, au final, passent par une notion d'exploration, déjà de savoir mon use case, mon cas d'usage, à quoi il va servir. D'accord? Et qui vont être les protagonistes qui vont faire partie de ce groupe. Et puis d'avoir une logique comme ça, comme on l'appelle business value, qu'on voit au milieu, d'accord? Mais ça ne suffit pas, parce qu'un projet qui a beaucoup de valeur business, il ne peut pas avoir toujours une valeur industrielle ou à une échelle industrielle. Et un réseau blockchain ne peut être efficace que lorsqu'il y a une expansion qui fait qu'il y a toujours cette notion de prise en compte de l'adhésion de nouveaux membres, de l'expansion du réseau, parce que c'est ça qui fait ça. Comme une entreprise. Si on raisonne une entreprise et je veux faire une entreprise et rester juste une petite TPE, ok, soit, mais ça, c'est pas forcément le cas. Mais si je raisonne, je crée ma startup avec la volonté d'être multinationale, je l'intègre déjà dans la création de la startup avant même mais un réseau blockchain, c'est de la même manière. Donc oui, il y a des choses locales. Hein. Je vous ai parlé des greffiers de Paris, mais c'est pas, c'est greffiers d'Île-de-France. Hein. Donc c'est, mais ils ont aussi cette volonté de pouvoir marketer ça en marque blanche et de pouvoir la transposer à d'autres corps de métier et même à d'autres régions, etc. Mais ça, c'était dans le modèle de départ. Donc, et c'est important, c'est de le penser comme une sorte de micro-entreprise ou une start-up, pas juste d'un point de vue techno. Donc, on le voit ici, il y a la notion de business value qu'il faut bien identifier en termes d'opportunités, la taille du marché, le business model, comment il va être positionné, la technologie sous-jacente, OK, elle est connue, elle est maîtrisée, mais l'articulation de cette technologie d'un point de vue, l'intégration au système d'information, le middleware qu'il va falloir mettre en place pour pouvoir transformer un certain nombre de messages, la restitution de l'information qu'il faut avoir sur un portail, sur une application mobile, etc. Ça aussi, c'est quelque chose qui se traite. Et puis, toute la gouvernance, c'est l'écosystème dès le début, les fondateurs. Et puis, comment cette gouvernance va durer. Ces trois niveaux, ces trois couches, les réseaux qui sont aujourd'hui scale ont ces trois gouvernances. D'accord? La gouvernance qui va gérer toutes les règles de ceux qui viennent, ceux qui partent, etc. L'adhésion et ceux qui partent, etc. La gouvernance qui va être économique. D'accord? Avec notion de business model de vente, d'aller chercher des nouveaux adhérents, d'aller faire étendre un peu ce réseau. Et puis, une gouvernance technologique qui va continuer toujours à suivre les évolutions technologiques et les mises à jour un peu des upgrades au niveau de la plateforme, des différents composants, etc. D'accord? Donc, ça, c'est important. C'est vraiment, je vous donne là où je vais dérouler un peu les quelques étapes des projets qui aujourd'hui représentent les trentaines qui sont at scale. Le modèle de gouvernance, les trois modèles de gouvernance sont ceux qui sont aujourd'hui dans ces réseaux. Hein. Donc, il y a ces trois comités qui se réunissent tout le temps pour ces sujets-là. Et puis, ça commence par ces étapes-là. C'est que avant même de savoir est-ce que ce que je veux faire est bon pour la blockchain ou bien utiliserai la blockchain ou la blockchain et serait utile pour ces use cases, il faut que je me pose déjà je me pose le problème et je ne raisonne pas, je veux faire de la blockchain. Là, c'est on raisonne solution tout de suite et puis je veux chercher quelque chose pour faire. Donc, c'est vraiment cette logique de prendre du recul, d'identifier quel est le vrai problème, la source, la root cause, hein, comme on dit dans certains cas, identifier quel va être le réseau, quel va être l'écosystème, avec qui je vais devoir travailler. Et avec qui je vais devoir échanger pour pouvoir faire ça. Et puis, il faut qu'il y ait un besoin de confiance. S'il y a de la confiance déjà établie, au final, il n'y a pas besoin de blockchain. Et s'il y a un manque de confiance parce que le réseau, il est éclaté, l'écosystème, il y a des concurrents qui sont amenés à travailler ensemble. Bah oui, il y a un manque de confiance. Donc là, la blockchain va avoir son apport et sa valeur ajoutée. D'accord? Deuxième, je dirais, axe, c'est qu'il faut commencer petit pour régler ce problème et toujours garder en tête la partie scaling avec des scénarios d'expansion. Mais ça se regarde dès le début. Ce n'est pas je fais quelque chose tout petit et je le fais à cette heure et après je vais me poser des questions. Ah, ben oui, je suis bloqué d'un point de vue technologique, d'un point de vue gouvernance, etc. Je n'ai pas raisonné ça dès le début. Et ça, c'est important de pouvoir le positionner dès le début. D'accord? Parce qu'il y a des projets qui ont capoté, pas forcément à cause de la partie technologique, mais à cause de cette notion d'expansion qui arrivait à un moment donné où on se dit, bah, au final, le marché, il se limite, il est écrêté à un moment donné. Et cette crête-là qui s'est posée, bah, fait que ça va vivre pendant 3 ans, pendant 4 ans, pendant 5 ans, mais pas plus. Bah, oui, si c'est pas viable plus que ça, c'est pas forcément le cas. Le but, quand on crée une entreprise, c'est pas pour dire, on va la tuer dans 5 ans, mais c'est d'avoir une ambition. D'accord? Et donc, le point de départ, je ne sais pas si c'est familier pour vous, le design thinking. Donc, c'est avoir cette notion de use case et de définir cette notion de use case avec cette approche design thinking, qui au final commence déjà par une approche de cohésion, de création de la communication entre les protagonistes, etc., et qui commence à déjà à structurer la confiance. Parce que c'est un peu un serpent qui se mord la queue, c'est pour avoir des données de confiance, il faut que je crée de la confiance. Ben, pour créer de la confiance, ben, il faut que je puisse déjà avoir une communication bien établie pour que nous, on ne se connaît pas tous parfaitement, mais à un moment donné, on ne va pas parler de tout et n'importe quoi avant même qu'on établisse. Mais si on fait un exercice ensemble et qu'on commence à faire des choses, ben, on va commencer à parler de sujets, puis une confiance qui commence à s'établir, et ça va en effet boule de neige. Et ça, c'est important. Et le design thinking permet de se focaliser vraiment sur l'utilisateur final, qui peut être une entreprise ou un consommateur ou peu importe, hein, une machine, et sur cette logique de problème. Quel est le vrai problème que je vais régler? D'accord? Et ça, c'est important parce que souvent, on va raisonner solution. Si je dis penser à un vase, et puis qu'après que je vous dise, bah, je viens de recevoir des fleurs, dites-moi une manière de pouvoir mettre en valeur ces fleurs. Bah, trois quarts vont dessiner un vase, mais d'une autre manière. Et il y a un quart qui va raisonner problème et qui va dire, bah oui, mettre en valeur des fleurs, bah, je vais les coller sur le mur. Je vais, voilà. Et ça, c'est coller sur le mur. Donc, il n'a pas pensé solution, vase. Il a pensé mettre en valeur des fleurs. Pas dit avec quels moyens. Et ça, c'est souvent le biais lorsqu'on veut faire notre projet blockchain pour qu'on dise qu'on a fait un projet blockchain et qu'au final, va rester dans un tiroir. Parce que lorsqu'on va aller le défendre, le dossier, on va dire, bah oui, mais le ROI de ça, il n'y a pas de PNL, il n'y a pas d'ROI, il n'y a pas de. Voilà, ça ne tient pas. On l'a fait parce qu'on s'est amusé technologiquement, mais pas plus que ça. Souvent, je suis assez provocateur, je dis, le Minitel, c'est une prouesse technologique, mais il n'a pas scalé. Ça aurait pu être l'Internet d'aujourd'hui, ça aurait pu être quelque chose. Le Concorde, prouesse technologique, ça n'a pas scalé en tant que ça. Et même les mirages, etc., prouesse technologique, mais on commence à peine à sortir de ce concours. Mais voilà, et c'est cet enfermement de raisonner technique, technologique d'abord et pas le reste. Les Anglo-Saxons, ils raisonnent d'abord business model et quelle est la capacité, alors qu'ils n'ont rien fabriqué encore. Et puis de commencer à travailler sur cette notion d'aller par itération. D'accord? Donc, vraiment, le point clé, c'est cette notion de définition du problème lui-même. Et ça ne se fait pas avec une personne toute seule, hein. C'est avoir les prismes. Et j'ai en tête plein de cas dans lesquels on a réuni dans des entreprises, que ce soit même publiques, et qui sont connues comme vraiment des gens de différents niveaux de profil, et autour de la table. Et dans cette session, ils se sont rendus compte qu'ils se sont découverts. Et ils ont découvert le prisme de leurs collègues qui, au final, est de la finance ou l'autre du marketing, l'autre des opérations, etc. Ils disent, ah oui, d'accord, toi, tu vois ça comme ça. je ne le voyais pas de cette manière, et du coup, ça crée cette. Et ça c'est cette notion d'esprit d'équipe qui commence à se construire pour définir quel est le vrai problème et pas juste selon un prisme donné. Et puis, c'est cette logique de le business problème lui-même, aussi le réseau. Est-ce qu'il y a un vrai réseau et est-ce qu'il y a besoin de confiance et de pouvoir prioriser derrière les use cases, parce que des fois, on peut avoir plein d'idées, mais il faut celles qui sont faisables le plus rapidement possible pour montrer la valeur et fonctionner comme ça en itération. D'accord? Donc, si on rentre un peu dans le détail de comment un peu tout ça se fait, comme je l'ai dit, c'est approche use case. Donc là, c'est une journée, je dirais, c'est un agenda type, d'accord? On fait sur 2 jours. L'idée, c'est de montrer un peu les étapes qui sont prises ici. C'est les use cases, la définition un peu des use cases et l'adaptation de la blockchain pour tel ou tel use case, pour pouvoir, j'irais, filtrer et commencer à tamiser un peu toute cette créativité qui s'est passée. Et puis après, deuxième point, c'est je vais passer encore un autre tamis qui va être le prisme de l'utilisateur final. Parce que s'il n'y a pas d'adoption de cette application finale, de ce logiciel, de ce portail, etc., qui restituera l'info, s'il n'y a pas d'adoption, forcément, il n'y a pas de scale. Et donc, il faut que je puisse raisonner en tant qu'utilisateur final, qui peut être métier, marketing, achat, supply chain, etc. Il faut que je raisonne comme ça. Et c'est aussi un cas qui va permettre, un exercice qui va permettre d'éliminer un certain nombre de fausses bonnes idées. D'accord? Et puis la troisième partie, c'est commencer à identifier un peu ce scénario aujourd'hui, de dire OK, j'ai ce use case, mais aujourd'hui, ce que je fais aujourd'hui, je le fais de telle manière, telle manière, telle manière. Donc, j'ai des irritants identifiés à telle étape, telle étape, telle étape. Et c'est ces irritants que je vais essayer de lever, de régler avec le sous-bit scénario, c'est-à-dire. Une fois que j'implémente ce use case, j'enlève cet irritant. Il en reste d'autres, mais ce n'est pas le sujet. Mais en tout cas, j'élimine. Et donc, c'est ce raisonnement user-centric, finalité, à la fois expérience utilisateur, employé, ce qu'on veut, UX, et puis finalité économique aussi, qui au final, dès le début, on commence à tout de suite savoir que est-ce que ce use case, il est viable ou pas. Donc ça, c'est typiquement un agenda de jour. Et puis, on se rend compte aussi, lorsqu'on prend du recul, c'est qu'un projet blockchain, c'est pas juste de la blockchain toute seule. C'est un peu comme la tuyauterie. La tuyauterie, elle a besoin aussi de d'autres accessoires autour pour pouvoir faire le projet final. Une salle de bain, une cuisine, etc. Mais la tuyauterie, elle est là pour vraiment véhiculer l'information. Et donc là, typiquement ici, on voit dans une approche un peu... segmenter la partie blockchain qui est à gauche et qui va avoir besoin de la gouvernance, qui va définir quelles sont les règles d'adhésion, de comportement au sein du réseau, de qui a le droit de faire quoi et de regarder quoi, etc. Et puis, le réseau lui-même qui va véhiculer un peu ces informations, les enregistrer, les notariser. Il y aura un profil de pilote blockchain qui va pouvoir faire ce réseau, le construire et l'opérer, et puis d'aider à ce qu'il scale, un peu comme dans l'informatique classique. Et puis, il y a toute la partie qui va embarquer les smart contracts, qui ne sont ni smart ni des contrats. C'était juste un workflow, des if-else, pas plus, et qui sont dans un middleware qui, lui, va faire l'intégration avec le système d'information pour dire... OK, j'ai un capteur qui a monté, qui a pris plus de 3 degrés. Je vais remonter une information, un statut dans la blockchain qui fait que ça va être véhiculé. Je vais savoir que c'est la cargaison qui est en train d'arriver à un endroit donné parce que c'est des vaccins, c'est je ne sais pas quoi, de l'alimentaire, du froid dirigé. Et on voit ce cheminement de ce capteur notarisé. Et puis, je le notarise parce que, lorsque le transporteur arrivera à la fin et qu'il dise « Ah non, il ne s'est rien passé, c'est juste un… » Non, c'est notarisé. Donc, d'un point de vue litige, résolution des litiges, etc., c'est notarisé. Et donc là, c'est cette couche d'intégration qui est très importante parce qu'il faut se greffer, il faut utiliser des données EDI, des données de capteurs, des données qui vont venir du SI, etc., et qu'il faut repartager aussi avec d'autres modules du SI, etc. Et puis, il y a toute la couche de présentation. Donc, on voit bien la couche données dans laquelle l'option est, la couche business application dans laquelle on va matérialiser ce use case et ce workflow associé, et puis la couche de présentation. Donc, comment, du coup, cette présentation va être restituée aux utilisateurs business, ligne de métier, consommateur, etc. D'accord? Donc, manière simpliste, hein, lorsqu'on crée donc les différentes tâches, lorsqu'on crée un peu un réseau blockchain, bah, on commence par créer le réseau, d'inviter les membres, de pouvoir avoir cette logique d'invitation, d'acceptation, de créer des canaux de communication, parce que dans un réseau, hein, c'est pas tout le monde communique avec tout le monde, mais il y a une notion de canaux de communication qui sont créés, hein, et puis une visibilité globale de l'ensemble, et puis chacun à son niveau, bah, intervient à un moment donné pour pouvoir faire le reste. D'accord? Donc, c'est vraiment cette notion de chacun connaît ce qu'il a à faire, et il y a une articulation de l'ensemble avec l'équipe de gouvernance qui va piloter cet ensemble-là de manière régulière. Et donc, ça, c'est ce qui a amené à ce qu'on puisse avoir un peu cet écosystème très étoffé, hein. C'est pour ça que des 600 projets, on n'en a fait que 30, parce que il faudrait être obligé de dire, et souvent sur les 600, on a pratiquement une bonne centaine auxquelles on dit non dès le départ. C'était même pas des. Et ça, c'est important, et c'est là où le conseil est important, c'est d'avoir du recul, de savoir qu'est-ce qui marche avant, qu'est-ce qui ne marche pas, et ne pas juste aller dans une logique, ah, je vous suis, je sais que ça va aller dans le mur, mais je vous suis. C'est un peu cette. C'est pas que du conseil techno. Il ne suffit pas d'un expert blockchain. Il faut de l'accompagnement au changement, des gens qui savent communiquer, qui connaissent le métier, qui connaissent la chaîne de valeur ou l'industrie de l'entreprise, etc. Donc, ça c'est important. Donc, troisième temps, vous dites si je déborde ou pas, mais là, je vais commencer à drainer un certain nombre de cas d'usage, de réseaux opérationnels aujourd'hui, etc. Bon, premier, bah, il est un peu du moment, je ne sais pas avec qui on en a parlé, par rapport aux batteries, etc. Parce que c'est un peu le hype du moment, la batterie électrique, mais sauf que ces batteries-là contiennent un certain nombre de composants. Okay, le lithium, le cobalt, bah, c'est l'Afrique, c'est la Chine. Voilà, c'est des endroits qui sont souvent pas très responsable en termes de travail, etc. Ben, le T3G aussi, c'est des terres rares qui sont rares par essence. Et donc ici, ben, on a fait un réseau, c'est un consortium, on le voit, pour avoir un FCA qui travaille avec Ford, qui travaille avec Volvo et Volkswagen, on va dire, c'est qu'est-ce qui les amène à se mettre autour de la table. Mais oui, c'est ce qu'ils ont essayé chacun tout seul, ils se sont rendus compte qu'il faut drainer toute une filière. Et puis, après, il y a les gens qui sont, là on voit LG Chemicals qui fait des batteries, et puis eux qui sont encore plus en amont, Glencore qui sont dans la chaîne. Et puis tout ça est piloté par RCS qui lui va créer cette cohésion entre l'ensemble et qui va faire ce travail d'agent de liaison entre les différents. Tout le travail, c'est là. Et souvent, c'est des gens qui ont à la fois cette culture IT, parce que c'est des intégrateurs, et qui connaissent de par leurs expériences le domaine, la chaîne de valeur, et au final, ils sont des agents de confiance par essence, parce qu'ils vont parler aux différents protagonistes. D'accord? Et ça, c'est assez clé. D'accord? Donc là, typiquement, c'est pour tracer le T3G tout le long de la chaîne jusqu'à Nord-Nickel ou jusqu'à la mine Rio Tinto qui va sortir tout ça. D'accord? Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple encore d'actualité, parce qu'on parle d'énergie, là, c'est typiquement initié par Tenet. Aujourd'hui, c'est devenu Equigy. Vous tapez Equigy sur Google, c'est une entreprise autonome et qui, au final, est maintenant le consortium de Tenet, Swissgrid, Terna et Apigee. Et dans lequel bah, il y avait aussi RTE qui était embarqué au début et qui a dit voilà, ouais, mais je vais faire mon truc tout seul. Je sais pas s'il y a des gens de RTE. Bon, en tout cas, c'est rare. Ils ont fini par faire ça. C'est de l'effacement, toute la gestion d'effacement d'énergie, en prenant en compte l'énergie verte, qui est intermittente, et des appels d'énergie. Donc, il y a des appels de charge comme ça qui sont faits par le réseau, plusieurs moments. Et puis, il y a l'énergie verte qui est intermittente, qui n'est pas stockée comme ça. Et donc, lorsqu'il y a des appels de charge et qu'il y a cette énergie verte produite par un certain nombre d'acteurs, on va débrancher des véhicules électriques pendant 5-10 minutes, etc. Et puis ça, c'est à une échelle donnée. Ça permet de rééquilibrer le réseau et d'envoyer cette énergie verte pour l'appel de charge qui est fait, etc. Et donc ça, c'est cet exemple-là qui, au final, sert et permet d'avoir un équilibrage du réseau avec l'énergie bleue et verte. Et on peut se dire, oui, c'est des concurrents, mais qui travaillent ensemble. Et c'est ce que fait, au final, la ville de Copenhague. Ils ont bâti un réseau comme ça, blockchain, dans lequel toute leur grid est équilibrée entre l'énergie éolienne, puisqu'ils en ont beaucoup, et les appels de charge. Et donc, voilà, c'est devenu une plateforme aujourd'hui assez automatisée dans cette logique-là.
Et Equity, ils interviennent où? Ils sont sur quelle application?
C'est l'entité qui a été
Okay.
créée, qui au final est gouvernée par des gens qui sont délégués de Ternade, etc., etc.
Ok. Et il y a
Donc,
des territoires ou des pays spécifiques où c'est utilisé?
aujourd'hui, c'est Italie, Suisse, Pays-Bas, etc. Donc, vous tapez sur Equity, vous aurez un peu le footprint. Puis voilà, ils ont leur propre force commerciale maintenant pour aller chercher d'autres acteurs, de la même manière que TradeLens, qui avait commencé par Maersk, qui est devenu autonome, il a sa propre force commerciale et c'est lui qui allait voir CMA, Paglog, Lloyd's, etc. pour pouvoir embarquer. Donc au final, ils deviennent des entreprises. C'est pour ça que je fais le parallèle avec une startup, parce que c'est réellement ça. C'est pensé comme ça et avec cette logique de développement et d'expansion. Faut être ambitieux, hein, faut être, lorsqu'on parle d'un réseau blockchain. Pas juste je le fais, j'ai l'étiquette et je le range dans un tiroir. Bon, peut le faire aussi, tester, mais faut pas que ça, enfin, pas que ça soit une norme. Ici, un autre exemple, New Light, c'est un intégrateur, hein, pareil, quelqu'un vient de l'IT, mais qui sait à un moment donné, et souvent dans ces cas-là, pour beaucoup de ces cas d'usage, c'est des gens qui viennent de l'IT et qui ont eu cette approche de dire, donc c'est. Ce n'est pas des cabinets de conseil ou des choses comme ça qui se sont dit, tiens, on va raisonner là, mais c'est des doueurs, c'est des gens qui sont des intégrateurs IT, des gens qui sont vraiment et qui connaissent à un moment donné un métier, etc., et qui se disent, tiens, avec un client zéro, on va essayer de monter quelque chose, et au final, ce quelque chose grandit, devient une entreprise, et puis on crée une plateforme de service qu'on va revendre, qu'on va marketer comme un service. Et au final, le mot blockchain, il apparaît, mais au fin fond. Parce que c'est pas l'utilité, c'est le service qui est rendu. Ici, c'est une entreprise qui fait la capture de carbone et fabrique justement des lunettes, des trucs en plastique, donc à base de carbone. Et ce carbone qui est capturé, c'est du CO2 capturé. Donc Air Carbone, c'est du CO2 capturé un peu partout et avec lequel on fabrique des objets plastiques, etc. Donc là, c'est vraiment, on est dans le développement durable, on est dans du vert. On voit ici les 7, 9, etc. Ça, c'est les objectifs de développement durable qui sont positionnés par les Nations Unies, que toutes les entreprises suivent. Donc, on voit à chaque fois les chiffres, c'est cette notion d'adhésion aux différents objectifs de développement durable. Donc, l'action sur le climat, responsabilité au niveau de la supply chain, etc. Donc, utilisation des ressources, etc. Donc, c'est vraiment, on voit là une intime relation entre blockchain et ce qu'on veut faire pour réduire notre dépendance énergétique, pour avoir cette notion d'économie, de sobriété, de piloter ça de manière plus fine et pas forcément de regarder un peu chacun ce qu'il consomme, mais de raisonner vraiment à échelle. D'accord? Donc, voilà, ça, c'est un exemple. Et puis, l'exemple qui va parler à tout le monde. C'est la traçabilité alimentaire. C'est dire, OK, chaque année, on a des scandales. Le dernier en date, c'est entre les Ferrero, les Pizza McCain, etc. C'est de dire à chaque fois, oui, il y a des problèmes. Sauf qu'il y en a toujours eu. Les Lactalis, on finit pas. Et ça, à chaque fois, bah, c'est toujours le même problème. C'est de dire, OK, bah, qu'est-ce que je consomme? Est-ce que c'est sûr que c'est comme ça? Plus la multiplication des labels, maintenant, il y en a un peu partout, entre le bio qui n'est pas bio, le bio français qui n'est pas vraiment français, les labels rouges, les labels locaux, régionaux, etc. Bah, tout ça crée une confusion et du coup une défiance. Au final, consommer responsable ou vouloir consommer responsable, bah, ça crée cette notion de défiance. Et ça, c'est typiquement, bah, c'est quelque chose qui est connu sous le nom de IBM Food Trust, qui a été initié avec Walmart au départ, parce qu'ils ont subi Escherichia coli sur des salades et ils ont rapatrié tous les lots. Ça leur a coûté plusieurs centaines de millions. Et ils se sont dit, ben, il faudra se pencher sur la question et ne pas avoir à comme ça rapatrier tout d'un coup. Et puis, ben, de fil en aiguille, c'est devenu une plateforme, c'est devenu un réseau aujourd'hui qui contient plus de 600 entreprises, dont fait partie Nestlé, Carrefour, Labeyrie en France, mais aussi d'autres grandes. Du marché, je dirais, mondial et du CPG, etc. Des gens comme Pescanova, qui font du temps, enfin, c'est un peu le numéro 2 du poisson, des boîtes de conserve, etc. Etc. Et donc, ça, c'est aussi une illustration de ce use case de traçabilité alimentaire pour de la qualité, etc., et qui commence sur. OK, la plateforme, mais au final, le use case, il est là, c'est de pouvoir mettre en connexion un peu ces différents protagonistes pour une finalité qui est d'abord de tracer, de pouvoir apporter les évidences de certification à chacune des étapes. Celui qui me dit ma farine elle est bio, bah, OK, bah, le certificat comme quoi c'est bio, bah, il est adjoint là-dedans. La date de péremption ou de validité de tel produit, etc. Et je descends la chaîne jusqu'à avoir les informations sur les stocks et sur la date de péremption de ces stocks-là, distribués chez tel et tel et tel. Et donc là, je commence à avoir une visibilité de bout en bout sur cette traçabilité amont, mais aussi traçabilité aval d'un point de vue distribution et péremption. Et qui aujourd'hui bah, s'enrichit avec l'empreinte carbone, parce que cette base fait que des organismes de standardisation sont revenus pour dire, vous avez un réseau avec un. Plein de filières, bah, c'est intéressant qu'on puisse travailler avec vous pour faire de scope 3. Le scope 3 étant l'empreinte carbone sur la chaîne de valeur. Et bah, vu qu'on connecte déjà les points, on trace le coton jusqu'à la matière première, on trace des aliments divers et variés, on trace des disques durs jusqu'à la matière première, etc. Renault Exceed, les gens de Renault communiquent dessus tout seul. Exceed, c'est dossier de compliance d'un véhicule. Tracé jusqu'à l'origine. Et donc, ce véhicule, ce dossier de compliance, bah, il y a des protagonistes comme des Faurecia, des Knauf Industries, qui sont des tiers 1, des tiers 2, etc., qui contribuent à cette blockchain avec leur bout de compliance de telle pièce et de telle pièce, de manière à ce que Renault, lorsqu'il sort le dossier de compliance, bah, ça lui prend quelques heures, alors qu'avant, c'était 3 à 4 semaines avec une armée de plusieurs dizaines de personnes pour pouvoir aller réconcilier l'info, etc. Donc, le final, la valeur ajoutée, elle est souvent perçue de cette manière-là. Okay.
Alors, sur la traçabilité des produits alimentaires, il y a Vincent qui nous conseille de manger des chocolats. Voilà.
Oui.
Donc, assez rapidement, et c'est là où Food Trust est quelque chose, donc ce qu'on appelle nous le réseau global, il est ouvert à toute entreprise qui veut venir tracer. Son produit. Et de toute façon, en France, j'ai eu un meunier qui est revenu des États-Unis, qui fait de la farine bio et locale, en Rhône-Alpes d'ailleurs. Il a armé sa meunerie des États-Unis et qui me dit, bah oui, mais comment je vais me différencier du reste? Et je fais du bio, je fais du local, j'ai plusieurs céréales comme ça, un peu des anciennes aussi que je mixe et je crée mes sacs de farine. Mais au final, il a dit, bah, vu que je me suis intéressé à la blockchain, et que j'ai entendu parler de Food Trust, bah c'est intéressant que mes sacs de 10, de 20 kilos que je vais aller vendre aux pâtisseries et puis aux boulangeries, bah que je leur dise, bah moi, ma farine, elle est tracée, elle est traçable avec des évidences et que jamais vous pourrez remettre en cause ça parce que je suis transparent dès le début, je vous donne tous les éléments là-dessus. Et il met un petit QR code sur le sac de farine qui, au final, permet de créer cette traçabilité qu'au final, la baguette, utilisé, ben on sait aller remonter jusqu'à. On ne dit pas juste ben c'est passé par telle meunerie, puis elle est cultivée là et là, mais on scanne, puis on peut voir la baguette tradie, bah, avec quelle farine a été utilisée, et puis d'où c'est venu, la passerelle, bah, au final, bah, j'ai mes grands-parents qui sont pas loin, etc. Ça crée cette logique d'adhésion au produit. Mais ça, c'est sur l'alimentaire, mais c'est valable aussi sur les pneus. Donc, il y a un grossiste de pneus qui a fait cette même logique de cloner le réseau pour pouvoir piloter toute son activité. Il a fait du Bridgestone, du Michelin, etc., qui revend. Mais sauf que ces pneus-là, s'il y a un accident et qu'on lui dit, bah, au final, c'est ton pneu qui est en cause et ton pneu n'est pas d'origine, etc., il a les évidences comme quoi bah, il a tous les certificats à toutes les étapes et que si y a une défaillance, elle se fait en bout de chaîne et que ce n'est pas lui qui est en cause. Parce que c'est un grossiste. Il fournit tout le monde. Ce qu'il faut de network, c'est trois des quatre gros producteurs de saumon en Norvège. Les Cermaq, Co, qui fournissent Metro, Carrefour, Laberye, etc. Ceux qui, elles, font l'élevage et production de saumon, donc le saumon, truite, etc. Y provenance, donc là encore, là, vous allez voir des profils différents, des cas d'usage différents. Donc là, ici, ben, c'est un réseau de traçabilité orienté consommateur final d'abord. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui est en plein milieu d'une chaîne de valeur. Ben, c'est un grossiste. Donc au final, c'est des gens qui sont souvent, on ne sait même pas qu'ils existent. Et il le fait pour ses opérations. Là, on a quelqu'un qui est au début de chaîne. Donc, vraiment, des gens où on peut se dire, bah, OK, début de chaîne, pourquoi? Mais eux, ils mettent en valeur leurs produits en disant, c'est le saumon qu'on a, bah, on vous donne toute la traçabilité de ce qu'il a mangé, le degré de salinité des bassins, etc., non OGM, voilà, tous les messages marketing, entre guillemets, qui peuvent être martelés. Là, on a un assureur de vins de grands crus qui prend des vins bordelais qui sont vendus aux États-Unis et qui sont très chers et pour lesquels bah, qu'il faut transporter et qu'il faut pas qu'ils dépassent une certaine température, pas qu'ils descendent sous une certaine température. Quand ils prennent l'avion, le vin, s'il descend sous une certaine température, il est plus bon. Donc, il y a cette traçabilité de la chaîne de froid. C'est pour ça qu'il y a cette notion de température ici. Et il fournit les évidences de manière à ce que la cargaison arrive dans les bonnes conditions jusqu'à réception. Et ça, c'est pour lui une manière d'assurer. Donc, c'est un assureur qui assure. Un pays provenance, vous allez savoir, ils ont un site et puis c'est une entreprise autonome, etc. Ici, c'est un constructeur de disques durs grand public, hein, donc, qui aussi trace ces disques durs parce qu'il y avait une notion de contrefaçon, parce qu'il y avait plein de disques durs qui revenaient, mais avec des composants qui n'étaient pas d'origine et ils revenaient en tant que garantie, dans le sens c'est toujours dans la garantie, mais sauf qu'il y a des composants qui ne sont pas d'origine, etc. Là, on parle de café, de cacao, Farmer Connect. Ils ont commencé par le cacao, après le café, ils parlent de traçabilité de cacao, de café, mais de manière équitable. Et en fait, ça a été lancé suite au scandale Max Havelaar. Et ils se sont dit, bah, OK, c'est un label, tout ça, mais nous, on va prouver. Et on vous donne toutes les évidences. Et chaque consommateur, il peut suivre les actions qu'on fait vis-à-vis des populations locales, en termes de développement, etc. Et donc, ils ont créé un truc qui s'appelle Thank My Farmer, où je scanne, j'aime bien le café, je peux faire une donation, je peux voir quelles sont les activités qui ont été investies, pour lesquelles il y a eu des investissements, etc. Et donc, il y a cette logique de création un peu d'intérêt, de groupe d'intérêt.
Une question, Yacine, c'est des blockchains privées, des blockchains d'entreprise, c'est pas tout.
Oui, c'est des blockchains
Des
d'entreprise,
blockchains
et voilà,
d'entreprise,
qui vont.
parce qu'il faut une gouvernance. Parce que là, on n'est que sur du déclaratif. Donc, moi, à la limite, je suis producteur de saumon. Je rentre dans la blockchain n'importe quoi, je dis, ah ben oui, mon saumon, je l'ai fait que bio, je ne lui ai rien donné. Il doit y avoir toute une gouvernance de contrôle, d'audit derrière.
Voilà, et j'attendais cette question parce que c'est souvent garbage in, garbage out. Donc, si je mets n'importe quoi que je contrôle pas, et souvent dans la partie communication, c'est que lorsqu'on va parler aux protagonistes et qu'on leur dit bah, venez adhérer à ce réseau, partagez l'information, mais attention, ce que vous allez mettre, c'est que ce sera gravé dans le marbre. Donc, si vous mettez quelque chose de faux, on verra que c'est vous. Et ça, c'est le premier élément de dissuasion. Donc, ça va dissuader certains, pas tout le monde. Deuxième niveau, c'est que dans ces chaînes de valeur-là, il y a déjà des organismes de certification, des Intertech, des SGS, des BVA, des BV, etc., qui sont, et qu'on implique aussi dans le processus pour dire, bah, dans les phases de démarrage, un peu comme lorsqu'on met une prod, hein, il y a toujours une sorte de phase dans laquelle on va être attentif et puis être. Et dans cette première phase, bah, on va surveiller, récupérer, checker, faire des mini-audits comme ça, un peu comme la check qualité, hein. Sur une chaîne, on prend des produits, on leur vérifie la qualité pour identifier est-ce qu'il y a des problèmes ou pas. Alors, en fait, c'est dans la phase de création du réseau et de son démarrage, il y a ces processus de vérification de la véracité de la donnée, etc. Comme on ferait sur une ligne de prod, où on pique, on récupère des produits et on fait de la qualité. Et ça, c'est ce qui permet de créer cette boucle de rétroaction, d'identifier là où il faut réajuster les choses. Avec toujours cette communication, bah, ce que vous mettez, c'est immuable. Et si vous déclarez que c'est comme ça, alors que c'est faux, ça sera géré tôt ou tard.
Donc, mais finalement, donc, il y a un organisme qui gère la blockchain au niveau global, et justement cette véracité de l'information, un peu de contrôle de supervision. Et à ce moment-là, je m'interroge, pourquoi une blockchain? Finalement, s'il y a un organisme central qui supervise un peu le truc, une
Non.
base de données, et on invite chacun à venir rentrer dans la base de données,
Ben non,
qu'est-ce qui...
la base de données, chacun ne partagera pas ses données dans une base de données unique. Mais l'organisme, il est déjà en place parce que c'est lui qui va aller auditer. Si on prend n'importe quel produit, il y a toujours celui qui va donner le certificat comme quoi ce lieu de transformation, il a les bons certificats, qu'il est ISO, qu'il est. C'est des organismes qui sont là, mais ce n'est pas eux qui centralisent l'info. Ils sont là comme tiers. De confiance, mais qui ne maîtrisent pas la donnée, qui n'ont pas la donnée. Ils vont juste vérifier la véracité de la donnée par rapport à ce qui est le standard de l'industrie, par rapport. Et l'entité de gouvernance, c'est le groupe de gouvernance. C'est ce que j'ai montré au début. Et qui fait intervenir des tiers, des experts, pour dire, c'est pas le groupe lui-même qui va, parce que le groupe, il est constitué de toute la chaîne de valeur. Si on dit, vous êtes le prod, et on fait toute la cascade de fournisseurs jusqu'au consommateur final, qui est représenté par vous. Bah, ça va être qui? On va tous contrôler qui contrôle qui, etc. Non, on va ramener quelqu'un, comme un CAC, qui audite les comptes, et qui va, à une période donnée, auditer ces données-là, et puis qui va potentiellement revenir 6 mois après ou 3 mois après, et ça crée cet ancrage de constitution de la donnée et de l'information. La blockchain, on voit que c'est un point, un axe ou une composante parmi d'autres. Oui, c'est autour de la donnée, savoir qu'est-ce que je veux faire de ces données-là, où est-ce qu'elles sont et comment elles sont utilisables, etc. Il faut que ça adhère à des process parce que je n'aimerais pas bousculer les choses, mais au-dessus de tout ça, c'est l'humain. Notion de confiance, on le sait, comme dans le business, s'il n'y a pas d'affinité qui se crée, que dès le premier meeting, la personne va rentrer dans la salle, je dis, oula, celui-là, c'est sûr qu'on ne fera pas de business avec. Mais on le sait, c'est comme ça, ça fait partie du. Et puis, il y a un état d'esprit à avoir, des compétences à la fois techniques sur la blockchain, mais beaucoup de soft skills dans la notion de communication, d'accompagnement au changement. Et puis un socle, c'est de dire je ne fais pas n'importe quoi avec n'importe quelle donnée, parce qu'il y a des données sensibles. On n'a pas parlé de RGPD, mais on ne peut pas mettre n'importe quoi dans une blockchain, parce que si on ne peut pas la supprimer, donc elle est dans le socle de la RGPD, donc forcément, je vais avoir une pénalité. Et donc, il faut que ce soit des données à la fois qui soient compliantes et qui soient sécurisées et qu'elles ne divulguent pas des choses pour que l'entreprise puisse être à risque, etc. Donc, c'est vraiment ce cadre-là qui définit ce que va être un projet blockchain réussi.
Merci beaucoup, Yacine, pour cette présentation. Merci à tous pour votre participation.